les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Parmi les images qui nous restent de l'occupation de l'Odéon en mai 68, cette photo de la petite pancarte placardée sur l'une des portes d'entrée et sur laquelle on pouvait lire « L'imagination prend le pouvoir à l'ex-Théâtre de France, entrée libre ». En 1981, dans les deux derniers épisodes d'une série de 10 entretiens menés par Guy Dumur, Jean-Louis Barrault racontait son souvenir de ce moment si particulier, lui qui, en 1968, à la tête de la compagnie fondée avec Madeleine Renaud, était installé à l'Odéon depuis près de 10 ans. Dans cette histoire, dit-il avec humour, j'ai joué le rôle de Baptiste, allusion à son personnage des Enfants du Paradis. Malraux, celui qu'il avait nommé à la direction de l'Odéon en 1959, fut celui qui le révoqua à l'issue de l'occupation de 68. La compagnie renaîtra sous d'autres cieux, à l'Élysée-Montmartre d'abord, puis au Théâtre d'Orsay, sous un chapiteau construit en 1972 au cœur de la gare des Affectés. Elle y restera jusqu'en 1979, année où elle sera de nouveau chassée pour laisser la place au futur musée. Au moment de ses entretiens, Jean-Louis Barrault attendait de pouvoir s'installer au Palais de Glace, futur Théâtre du Rond-Point, où Madeleine Renaud et lui travaillèrent jusqu'en 1991, 3 ans avant de disparaître tous les deux, à quelques mois d'écart. Entretien avec Jean-Louis Barrault par Guy Dumur, 9e et 10e épisode, diffusé pour la première fois les 26 et 27 février 1981.
Entretien avec Jean-Louis Barrault. Par Guy Dumur. Aujourd'hui, 9e émission, Nouvelles Errances.
Silence !
Jean-Louis Barrault, nous vous avons laissé la dernière fois à l'Odéon au Théâtre de France. Nous avons évoqué, du moins, les grandes créations du Théâtre de France, en particulier du Tête d'or de Claudel, et puis de cette pièce magnifique de Beckett, Oh les beaux jours, qu'a joué Madeleine Renaud. Nous avons aussi évoqué vos difficultés, les difficultés financières qui se posaient dans ces théâtres pourtant subventionnés, mais il y avait d'autres difficultés qui vous attendaient. En effet, toujours audacieux, et parmi ce système d'alternance, parmi toutes les œuvres classiques qui posaient moindre problème au public ou au pouvoir public, vous avez voulu créer une œuvre au Théâtre de France qui, elle, a provoqué des drames, qui était Les Paravents de Genet. Les Paravents, qui était une pièce que Genet avait écrite au moment de la guerre d'Algérie, qui n'avait jamais pu être jouée, car je crois, à ma connaissance, la seule fois où on avait voulu le jouer, je crois que c'était au Théâtre du Vieux Colombier, immédiatement, il y avait eu une espèce d'interdiction, on avait annoncé qu'il y aurait de telles manifestations qu'elle ne pouvait pas être jouée. Et puis, tout de même, les choses s'étaient un peu calmées, puisque la guerre d'Algérie était finie. Et en 1966, vous avez décidé de créer Les Paravents. Mais alors, tout de suite, il y a eu un tollé. Je me rappelle une interpellation à la Chambre. Ça a été très, très violent, les réactions.
Oui, on a voulu nous envoyer en prison. Mais je dois dire que nous avons été très, très bien défendus à cette époque-là, et par Malraux et par Gaëtan Picon, qui travaillait au ministère d'André Malraux. Malraux nous a très bien défendus à la Chambre également. Mais ce qui a permis, auparavant, de rester à l'affiche et d'aller jusqu'au bout à chaque représentation, car il n'y a jamais, nous n'avons arrêté des paravents.
Il faut rappeler qu'il y a eu des manifestations très très violentes.
Il y avait non seulement des manifestations, mais il y avait des gens qui se parachutaient du 3e étage et puis qui tabassaient les gens. Il y avait beaucoup de sang. Nous avions utilisé la fosse d'orchestre comme une espèce de fossé de douve d'un château. Et puis, nous recevions des clous, des ampoules électriques, des jetés de rats, et puis des bombes incendiaires. À chaque fois, le public, il y a peut-être 10% de manifestants violents, mais les 90% du public restaient là, se levaient, éteignaient les bombes, se passaient les rats, etc. Et se secouaient le vêtement parce qu'ils avaient du plâtre, mais ils restaient là et ils imposaient, ils demandaient qu'on termine la pièce, et nous avons toujours terminé la pièce malgré les bagarres et le sang, n'est-ce pas ? C'est une pièce qui est une des plus importantes parmi les pièces modernes du XXe siècle. Il y a dans les paravents une dizaine de scènes qui sont du meilleur Shakespeare. Et je plaidais en faveur des paravents, et je continue de plaider en faveur des paravents, parce que c'est une transposition du fait historique. Je n'ai part d'un fait historique, qui est la guerre d'Algérie, et il en fait une épopée sur la mort et sur la misère. Et s'il ne transposait pas ce fait divers, qui est au fait historique, en une épopée sur la mort et sur la misère, ça n'aurait pas mérité d'être monté. Mais c'est cette épopée de la mort et de la misère qui est extraordinaire. C'est ce qui fait, à mon avis, des paravents, une des plus grandes pièces du théâtre moderne. J'ajoute, c'est encore Blin qui avait mis en scène, parce que Genet avait voulu que ce soit Blin, et j'étais tout à fait d'accord.
Dans la mise en scène de Blin, les costumes, les personnages avec des maquillages tout à fait extraordinaires étaient très transposés.
Oui, c'était très très beau.
Madeleine,
très
je me rappelle, il y a ces photos ont beaucoup circulé, elles sont très connues de Madeleine Renaud, absolument méconnaissable,
avec une
espèce de tiare extraordinaire.
Elle faisait la reine des prostituées.
La reine des prostituées.
Genet avait voulu que Madeleine fasse la reine des prostituées. Et alors un jour, justement, en pleine bagarre, elle reçoit une dégelée d'ampoules électriques sur elle qui éclatait autour d'elle. Alors elle s'arrête de jouer, elle avance vers la rampe et elle s'adresse aux manifestants en disant « Alors, vous n'aimez pas non plus les putains ?» Ce qui a provoqué une hilarité générale et qui a permis de continuer. Mais c'est un grand souvenir, les paravents.
C'était très beau, et d'ailleurs la pièce n'a jamais été reprise depuis, ce qui est dommage.
C'est dommage.
Est-ce que vous songez à la reprendre un jour ou l'autre ?
Certainement, ça sera repris, mais je trouve qu'il vaut mieux que ce soit une autre génération qui la reprenne.
Et il y a eu un autre grand spectacle à l'Odéon, que vous n'avez pas monté non plus, mais où vous jouiez alors, qui était La Tentation de Saint-Antoine de Flaubert.
J'avais demandé à Béjart de monter quelque chose, et nous étions tombés d'accord sur La Tentation de Saint-Antoine, que nous aimions tous les deux. Moi, ça faisait 25 ans que j'en rêvais, et Béjart en rêvait également. Alors, il a monté sur la Tentation de Saint-Antoine, et qui a été vraiment une très grande réussite, à mon avis.
Une très grande œuvre, et tout à fait dans la ligne, justement, des paravents ou du Quai d'Or, qui était un très grand esque, et où vous étiez vous-même très extraordinaire,
et
je trouve, dans Saint-Antoine.
Béjart avait apporté, justement, une atmosphère nouvelle qui redonnait du sang à la compagnie. Car là, vous marquez un petit peu une évolution de ma part, n'est-ce pas ? C'est que je voulais que le Théâtre de France devienne un lieu international, mais alimentant des metteurs en scène, des auteurs, faisant des propositions. Et nous avons créé le Petit Odéon, et nous avons là eu l'occasion de monter les premières pièces de Sarraute, Le Mensonge et le Silence, puis Duras est venu, et nous avons fait les journées entières dans les arbres.
Qui était un des plus beaux rôles de Madeleine, nous avons l'occasion d'en reparler.
Oui. Et puis une des plus belles pièces de Marguerite. Si bien que quand on avait des affiches où côtoyaient Andromaque, Partage de Midi, Le Soulier de Satin, Les Paravents, Marguerite Duras, Sarraute, ça devenait, et puis une mise en scène de Béjart, une mise en scène de Blin, etc. Lavelli a fait une mise en scène également aussi. Nous voulions faire de ce lieu un lieu international où tout le monde puisse travailler et venir apporter son écho.
Et c'était si international d'ailleurs que vous aviez été chargé à cette époque de la direction du Théâtre des Nations et que vous avez fait appel à des troupes étrangères.
Oui.
Et que là, il faudrait tout de même évoquer encore une fois très rapidement, mais quelques très très grands souvenirs de théâtre, en particulier le Bunraku dont nous avons parlé dans une précédente...
Et la première visite de Grotowski.
De Grotowski avec le Prince Constant.
Oui, qui était merveilleux.
Qui est un des deux spectacle de Grotowski que nous avons vu en France, qui était très très beau. Oui. Et il y a eu également ce spectacle très très impressionnant du Living Theatre, The Brig,
qui
était très très beau.
Très beau aussi.
Et je crois aussi que c'est à cette époque que Strehler est venu avec une peut-être la plus belle réalisation, sa plus belle Baroufakiodia, non?
Oui. Après 3 ans d'efforts, l'Odéon Théâtre de France devenait quelque chose d'extraordinaire. Le destin l'a fait éclater.
Alors nous en arrivons justement au signe du destin, c'est qu'il s'était passé plus de 3 ans, qu'il y avait presque 10 ans que vous étiez là et que nous avons évoqué cette prodigieuse richesse. Et lorsque justement c'était au milieu du Théâtre des Nations, alors que les ballets Paul Taylor étaient en scène, et alors évidemment cette saison du Théâtre des Nations se déroulait sous de mauvais auspices, puisque nous sommes en mai 68 et que des événements tout de même très très violents avaient éclaté dans le quartier latin.
Oui, nous étions en tournée à ce moment-là en Angleterre, à Londres. Et alors c'est de Londres que nous avons appris les événements de la rue Gay-Lussac, où police et les étudiants s'étaient accrochés.
Et puis alors tout d'un coup, à minuit, brusquement, à l'issue des ballets Paul Taylor, l'Odéon a été envahi. Et pourquoi croyez-vous que les manifestants ont choisi l'Odéon? Est-ce que c'était contre vous? Est-ce qu'il y avait...
Non, pas du tout. Bon, dans cette histoire de mai 68, moi j'ai joué le rôle de Baptiste, vous savez, c'est... C'est pour ça que les pirons reçoivent toujours les coups de pied au cul. Mais nous étions donc en tournée et il y avait des menaces à la Sorbonne, au Sénat. Les étudiants menaçaient d'occuper des lieux. Je crois que le gouvernement avait tout intérêt à laisser occuper un lieu inoffensif et innocent qui était l'Odéon. À ce moment-là, c'était un abcès de fixation.
Vous croyez qu'il y a eu une complicité?
Je ne sais pas s'il y a eu une complicité, mais il y a eu une intelligence. C'était intelligent de laisser les étudiants se précipiter sur l'Odéon. D'ailleurs, quand dans l'après-midi du 15 mai, je crois que c'est le 15 mai, le bruit a couru, c'était quelqu'un qui venait de Sancier, et le bruit a couru qu'il voulait envahir l'Odéon le soir même, nous avons immédiatement téléphoné à notre ministère de tutelle, parce que c'est tout de même un lieu qui appartient au gouvernement. À partir du moment où on ne fait plus de théâtre et on fait de la révolution, ça ne nous incombe plus, ça incombe le gouvernement. Alors nous avons téléphoné au ministère de tutelle, et il m'a été répondu de la part de Malraux, c'est pas Malraux qui me dit, mais le ministre vous dit que si les étudiants se présentent, ouvrez les portes et entamer le dialogue. Voilà ce que j'avais reçu comme consigne. Il y a eu le soir les ballets Paul Taylor, mais on n'a pas eu à ouvrir les portes, car tous les étudiants manifestants avaient assisté au ballet Paul Taylor. Ils sont donc restés. Et alors, étant restés, on m'a appelé. J'étais rentré, on m'a appelé. Je suis venu à l'Odéon. Là, c'était déjà le grand chahut. Et j'ai voulu entamer le dialogue, mais c'était une telle fièvre que le dialogue était impossible. Alors, voilà, ça a commencé comme ça. Et puis, nous, notre réaction avec l'équipe, notre équipe de la compagnie et l'équipe technique, c'était de sauver les meubles. De ne pas... Alors, on a organisé un roulement de surveillance pour les costumes, pour les décors, etc. Parce qu'il y avait tout de même pas mal de désordre. Et puis, à un moment donné, comme il y avait tellement de monde sur la scène et que le plancher risquait de s'écrouler dans les dessous, alors on a cassé le rideau de fer qui est tombé. Si bien que ça a libéré un petit peu la scène. Alors, le forum est passé dans la salle. Puis ça a continué. C'était...
Mais alors, quelle a été l'attitude des pouvoirs publics tout de même à ce moment-là? Parce qu'il y a eu quand même... ça s'est un peu retourné contre vous, enfin, cette situation.
Oui. D'abord... En 4 semaines, je crois qu'on a vécu les 6 années de la Révolution française. Les premiers jours, ça a commencé dans l'enthousiasme des fêtes de la Fédération, de 89, avec la joie des étudiants, etc. Cette espèce de communication spontanée qui s'établissait soudainement et qui était assez enthousiasmante, je continue de le dire. Puis au bout d'une 8aine de jours, ça s'est pourri, ça s'est tourné en grève. Et on passait de la fête de la Fédération à la terreur. Et au bout de 4 semaines, c'était la terreur. Et alors, à ce moment-là, il n'y avait plus un seul étudiant, il n'y avait plus que des spécialistes en tout genre. Alors, un jour, on nous a sommés, le gouvernement nous a sommés de partir, nous.
Il y a des situations de coupure d'électricité où on vous a demandé de...
On m'a donné l'ordre de couper l'électricité et de couper le téléphone, etc. Il y avait 3000 personnes qui vivaient là-dedans. Alors, Et il y avait des cocktails Molotov, etc. J'ai dit, mais vous êtes ridicule, vous voulez me faire porter le chapeau, si je coupe l'électricité et le téléphone, il va y avoir des morts. Et si vous avez des choses à faire, faites-les vous-même et pas moi. Et alors c'est à ce moment-là que le ministre m'a désapprouvé dans les journaux et que j'ai répondu dans les journaux, parce qu'on n'en avait plus de communication avec eux, serviteur oui, valet non. Etc. Enfin, alors,
vous n'avez pas pu, ça me paraît très tragique quand même et très curieux. Vous n'avez jamais pu rencontrer Malraux à cette époque.
Jamais. Et au bout d'un mois et demi, deux mois, n'en pouvant plus.
Vous étiez pourtant sa création.
Oui, enfin, il était coincé. Et je suis allé rue de Valois pour lui porter une lettre et je l'ai rencontré. Et il m'a tourné le dos. Alors, d'ailleurs, j'ai eu un mot un peu familier. Je lui dis, ça c'est fort de café alors. Tellement j'étais bouleversé que Malraux me tourne le dos.
Cela dit,
il était coincé.
Oui, cela dit, il y avait eu déjà des histoires. Par exemple, s'il vous a soutenu, c'est vrai, au moment des paravents, il y avait eu déjà, dans les débuts de l'Odéon, en 61, je crois, l'affaire des 121, par exemple.
Ah oui.
Ou tout de même des gens comme Boulez, Alain Cuny, André Masson, tous les gens à peu près, c'est assez amusant, qui avaient collaboré à la création de Tête d'Or, étaient compromis et interdits de scènes officielles, etc., pour avoir signé un manifeste contre la guerre d'Algérie.
Oui.
Alors évidemment, vous étiez dans une époque quand même, ce Théâtre de France vivait dans une époque très agitée.
Très agitée et certainement, on connaissait un peu nos opinions et notre comportement. Vous savez, le français rancunier, qui sait si en éviction, fin août 68, car c'est en fin août 68 que j'ai reçu un petit mot de Malraux par l'intermédiaire d'un autre monsieur, très gentil d'ailleurs, comme quoi il renonçait à mes services, eh bien, qui sait si cette petite lettre n'était pas la conséquence occulte
des paravents, etc. Oui, mais... probablement. Probablement. Ouais. Mais en fait, tout de même, pour vous, c'était quand même une grande catastrophe, parce que, au point de vue, évidemment, de votre profession, etc., mais il y avait également matériellement, je crois, à l'Odéon, vous avez entreposé... Tout votre était détruit. Matériel à vous, c'est ça.
Mais oui. Tout était détruit et dans la liquidation du matériel que nous avions fourni au Théâtre de France.
C'est-à-dire de l'ancienne compagnie Renaud Barreau, enfin.
Tout le répertoire de la compagnie Renaud Barreau. Eh bien, tout ce matériel a été décidé appartenir au lieu où il était stocké. Or, comme nous avions stocké tout notre matériel dans les magasins de l'ancienne Comédie Française et de l'Odéon, alors tout notre matériel nous était confisqué. Mais j'ai encore appris une chose.
Confisqué, il avait été détruit d'ailleurs.
Les costumes pour les trois quarts détruits, et puis le matériel des décors qui étaient dans des ateliers du côté de la place Champéret, n'est-ce pas, n'avaient pas été détruits. Ah, oui. Mais là, ils étaient confisqués. D'ailleurs, je les ai rattrapés plus tard, comme un chien qui veut récupérer son os, grâce à la gentillesse de Jacques Duhamel. Et c'est ce matériel-là qui a participé à
la décoration,
à la décoration du Théâtre d'Orsay.
Oui. N'est-ce pas ?
Mais j'ai appris une chose, c'est qu'il fallait toujours convertir les coups du destin en instruments de la Providence. Voilà un coup du destin qui était terrible. Moi, j'avais 58 ans, donc théoriquement, un coup comme ça, le type est cassé. Il n'a plus qu'à rentrer dans ses foyers. Mais, comme j'avais voulu venger Genet à cause des paravents, je m'étais mis à adapter l'œuvre de Rabelais, pour bien montrer que Rabelais en avait entendu bien d'autres que Genet, du temps de sa vie. Et alors, grâce auparavant, j'avais composé un spectacle sur Rabelais et que je voulais créer en octobre 68 au Théâtre de France. J'en avais fait la lecture en mars 68 à de mes camarades, au petit Odéon. Et puis, étant dépossédé de tout, mis à la rue, j'avais dans mes mains le manuscrit de Rabelais. Et c'est ce manuscrit de Rabelais qui a reconverti ce coup du destin en instrument de la Providence. Et alors, tout à coup, j'ai cherché un lieu pour monter Rabelais, et la vie m'a ramené dans le pâté de maison de ma jeunesse, dans le pâté de maison du Théâtre de l'Atelier, à l'Élysée Montmartre.
Oui. Alors, cela dit, ça n'est pas...
C'était beau.
Oui, oui. Et en même temps, ça n'est pas aussi, tout à fait aussi simple que vous le dites, en ce sens qu'il était inhabituel à l'époque. Maintenant, on est plus étonné, on fait du théâtre partout. Mais à ce moment-là, en 1968, on n'avait pas encore l'habitude. Le théâtre n'avait pratiquement pas quitté les salles de théâtre. Mmh. Et ça a été, je me rappelle, un grand étonnement lorsqu'on vous a vu vous installer dans une salle de catch, car l'Élysée Montmartre servait au catch, n'est-ce pas?
Mais il y avait déjà une préparation d'ordre esthétique de ma part. D'abord, avec Béjart, on avait joué un petit peu dans la salle.
Avec oui, en fait, c'était dans le cadre d'un théâtre, bien sûr.
Quand j'avais monté Henri VI de Shakespeare, eh bien, on jouait aussi dans la salle. Puis, j'avais amorcé des gradins sur la scène. Et je voulais compléter cette recherche avec Rabelais, en mettant des gradins sur la scène et en jouant sur les quatre côtés au milieu de l'orchestre du théâtre de l'Odéon. Et alors à ce moment-là, n'ayant plus ce théâtre à l'italienne, ce sont les quatre côtés qui se sont imposés à moi et j'ai cherché un lieu où je pouvais jouer sur les quatre côtés. Et alors c'est là où l'Élysée Montmartre s'est présenté avec facilité.
Et ils ont accepté tout de suite.
Ah mais j'ai vu de la porte, c'est en 10 minutes ça s'est arrangé.
Mais il fallait quand même beaucoup d'aménagement dans cette salle.
Ah oui, oui, puis beaucoup de...
Ça a été un gros travail.
Beaucoup de soucis au point de vue acoustique également. Puis il y avait une verrière, dès qu'il pleuvait un tout petit peu, c'était comme si on recevait des plombs, n'est-ce pas? Et alors il fallait couvrir la verrière de laine de verre, etc. Et là on a fait beaucoup de travaux, enfin d'aménagement, mais d'aménagement artisanaux, c'est pas... on n'avait pas beaucoup d'argent.
Oui, d'ailleurs, ça paraît surprenant que vous soyez rétabli, si on peut dire, aussi vite, et que vous ayez pu trouver les moyens de monter cette pièce.
Alors, ça a marché merveilleusement.
Oui.
Alors ça...
Vous aviez encore la compagnie. Certains vous avaient quitté tout de même à l'issue de mai 68.
Oui, quelques-uns. Mais enfin, nous, de la compagnie, à la création de Rabelais, il y avait encore 18 acteurs de la compagnie régulière.
Plus de nouveaux éléments. Et par exemple, comme Michel Polnareff.
Alors, j'avais demandé à Michel Polnareff de faire la musique. C'était déjà encore une audace de demander à Michel Polnareff de faire la musique pour Rabelais. Mais tout ça, Michel est un grand musicien. Alors, il pouvait être moderne et puis avoir des racines de musique classique, n'est-ce pas? Si bien que tout ça a été une réussite.
Ça a été un grand succès. Et alors, tout de même... nous avons beaucoup parlé de Claudel, de toutes sortes d'auteurs que vous avez montés. Mais tout de même, Rabelais, là, pourquoi Rabelais?
Je vous ai dit dans d'autres entretiens que j'étais à la recherche du père, étant orphelin de père de 14-18, et que j'avais trouvé un premier père qui était Dulin, puis Claudel, etc. Eh bien, Rabelais est le père de mes 58 ans. Et Rabelais me nourrit. J'ai des affinités profondes avec l'œuvre de Rabelais. Ça vient peut-être de mes antécédents vignerons, paysans, je n'en sais rien, ou terriens, c'est plus généralement dit. Mais je vibre à Rabelais et il me nourrit, c'est du pain complet. Alors c'est pour cela que tout à coup j'ai sauté sur Rabelais comme on se réfugie dans les bras de son père.
Et est-ce que c'est par antithèse que toujours à l'Élysée Montmartre, vous avez ensuite fait ce spectacle Alfred Jarry? Ou est-ce qu'il y a des points communs, selon vous, entre Rabelais et Jarry?
Quand, au cours d'un débat, parce que nous organisions des débats après Rabelais, n'est-ce pas? Et les gens étaient très contents de rester pour parler tous ensemble. Eh bien, j'ai demandé un jour, j'ai dit, qu'est-ce que vous voudriez que j'adapte pour vous? Et beaucoup de personnes m'ont dit, adapter Jarry, mais l'œuvre de Jarry. Parce que Jarry a toujours été présenté sous un angle qui n'est pas le Jarry entier. C'est le Père Ubu, c'est un écolier, etc. C'est un petit peu un Jarry d'école buissonnière, si vous voulez. Mais le vrai Jarry, le Jarry du Surmar, le Jarry c'est un Jarry complet. Et une démarche complète et métaphysique également. Si bien que j'ai eu envie de présenter un Jarry qui aurait pu intéresser la vie moderne, parce que il était complet et il a été battu par trop d'intelligence. Et il y avait trop d'intelligence après 68. Et alors, je voulais montrer que la jeunesse ne devait pas se limiter à trop d'intelligence et qu'il y avait, regardez, dans Jarry, eh bien, des choses absolument complètes et bouleversantes. Et puis là, ça a affolé les gens. Même les pataphysiciens fusaient de voir ce travail. Et pourtant, ils s'étaient précipités à Rabelais, mais là, ils n'ont pas voulu se précipiter à Jarry. Ils ont boudé Jarry parce que, comme certains, se croient curés de Kafka. Vous savez, les gens qui cultivent la religiosité d'un grand poète, n'est-ce pas, le pataphysicien était le curé de Jarry. Alors, il est resté dans sa chapelle. Il n'a pas voulu venir. Il a eu tort.
Mais un peu, il me semble que dans votre carrière, dans toute carrière d'acteur, metteur en scène, de créateur, de romancier également, il y a un peu une loi de l'alternance. On a toujours un peu l'impression que le public, sinon la critique, vous fait payer le succès précédent. Enfin, où tout d'un coup, on va... Le succès, c'est pas à cause entièrement des qualités intrinsèques de spectacle. Le succès de Rabelais, on voulait vous le faire payer d'une certaine façon. Comme avec le succès de Rabelais, on avait voulu vous consoler de l'échec de l'Odéon. Il y avait tout d'un coup, tout le monde était porté vers vous par une espèce de regret, de tristesse.
C'est possible. Mais d'ailleurs, il y avait des choses dans Jarry que j'aimais beaucoup. C'était un spectacle que nous avions travaillé avec joie et enthousiasme. Seulement... peut-être qu'on a choqué un peu. Il y avait un côté peut-être provocateur et qui choquait certaines personnes. Je me rappelle, il y avait tout un quart d'enfants qui étaient venus voir Jarry, mais qui étaient venus de Bruxelles, avec les professeurs qui étaient des dames. Alors il y avait des petites filles, des jeunes gens qui étaient dans les gradins de l'Élysée-Montmartre pour assister à Jarry. Et au moment de la scène où Jarry compare le calvaire avec une course de côte, avec une course de vélo. Et alors, quand Jésus tombe pour la première fois, à la troisième chute, Marie dans les tribunes commence à s'inquiéter, etc. On a entendu mesdames, mesdemoiselles, c'était les professeurs qui faisaient lever tous leurs élèves, et ils sont tous partis en colonne par quatre, rejoindre leur cas. C'était du Jarry. C'était extraordinaire. Mais ça, évidemment que c'est ça ne fait pas le succès.
De toute façon, cet Élysée-Montmartre était forcément un lieu d'aventure. Et vous avez continué, d'ailleurs, à l'époque, Madeleine n'était plus avec vous provisoirement, puisqu'elle a joué l'amante anglaise, très très beau rôle de Marguerite Duras, mais à ce moment-là, au Palais de Chaillot.
Mise en scène par Claude Régis.
Par Régis, oui, c'était un très beau spectacle. Mais alors, vous êtes tout de même, à ce moment-là, encore reparti, vous avez repris votre bâton de pèlerin, et vous avez fait une tournée avec Rabelais.
On a fait une tournée avec Rabelais, nous l'avons joué à Berlin, à Rome, partout, et jusqu'aux États-Unis, jusqu'en Californie. Et nous avons joué à l'université de Berkeley, le Rabelais. On donnait 5 représentations, c'est un des meilleurs souvenirs de théâtre que je peux avoir. On donnait 5 représentations de Rabelais dans l'auditorium de l'université de Berkeley, qui est un auditorium de 2500 places. Et nous avions joué déjà 4 fois avec un public d'étudiants merveilleux qui comprenait toutes les nuances du vieux français. Quand les étudiants se sont battus avec la police parce que dans une université du Kent, il y avait des étudiants tués par une police parallèle. D'où bagarre et le chancellor, enfin le recteur, ferme le campus de l'université de Berkeley. Donc notre 5e représentation était interdite. Nous étions très navrés. Quand, dans l'après-midi, je reçois un coup de téléphone où on me demande « Est-ce que vous êtes encore apte à jouer ce soir ?» Je dis « Parfaitement, nous n'attendons que ça, nous sommes tous là, désœuvrés. » Eh bien, la délégation des étudiants et la délégation de la police se sont rencontrés, il y a eu discussion, et ils ont décidé une trêve de 4 heures pour, je cite, « permettre à Rabelais de s'exprimer ». Et alors nous avons rattrapé tous nos camarades, il fallait commencer à 8 heures précises, ne pas faire d'entracte. Moi en revanche j'ai dit, eh bien toutes les portes sont ouvertes, même aux policiers. Et alors nous avons joué cette dernière représentation de Rabelais dans un enthousiasme extraordinaire et une intelligence de toutes les finesses de la langue française de la part des étudiants. Et devant, au lieu de 2500 places, il y avait 4000 personnes, on marchait sur les pieds. Et au moment où on crée l'abbaye de Thélème, et où tout le monde crie « Fais ce que tu voudras parce que l'homme est libre », on a tous endossé le chandail de Berkeley. C'est un des plus beaux souvenirs que j'ai de théâtre.
Entretien avec Jean-Louis Barrault. Aujourd'hui, nouvelles errances. Par Guy Dumur. Assisté de Janine Antoine.
Vous venez d'entendre le 9e volet des entretiens de Jean-Louis Barrault par Guy Dumur, diffusé pour la première fois sur France Culture le 26 février 1981. Tout de suite, le 10e et dernier moment de cette rencontre.
Entretien avec Jean-Louis Barrault. Par Guy Dumur. Aujourd'hui, 10e et dernière émission, le Théâtre d'Orsay.
Nous voici parvenus au dernier entretien d'une série de 10 entretiens que nous avons fait avec Jean-Louis Barrault. Mais je dois dire que je sens une certaine tristesse de me séparer de Jean-Louis Barrault, alors qu'il nous a donné la preuve au cours de tous ces entretiens d'une vitalité, d'un esprit de recherche, d'un esprit de jeunesse.
Quand on vous lance bien la balle, on bondit.
Ah oui, mais on ne vous l'a pas toujours bien lancé. Justement, nous avons vu, vous avez accepté avec beaucoup de force et beaucoup de jeunesse, encore une fois, tous les ennuis que vous avez pu avoir, au point que on a l'impression qu'ils n'ont pas été très graves, ces ennuis, alors que après l'histoire, la fameuse histoire de mai 68, l'occupation de l'Odéon, vous vous êtes retrouvé sans rien, après avoir dirigé quand même le Théâtre de France, que vous êtes trouvé sans rien, que vous vous êtes retrouvé à l'Élysée-Montmartre, dans une salle de catch, et puis vous voilà maintenant lancé dans une nouvelle aventure, peut-être plus extraordinaire encore que les autres, puisque tout simplement vous avez entrepris de construire un théâtre qui sera le Théâtre d'Orsay, que vous avez jeté votre dévolu. C'est-à-dire une première fois, vous avez tout de même dressé une tente dans cette immense gare d'Orsay. Vous avez peut-être été le premier à vous apercevoir de cette espèce d'immense espace désaffecté au cœur de Paris, dont on va faire un musée, dont nous allons voir que vous avez été victime, pour pouvoir jouer la dernière journée du Soulier de Satin.
Mais sous le vent des îles Baléares. Il s'agissait de célébrer le centenaire de Claudel, d'ailleurs avec 4 ans de retard. Et c'était en 1972, et Claudel aurait eu 100 ans en 68, n'est-ce pas ? Et pour cela, nous avions besoin d'un chapiteau de cirque, puisque nous allions créer cette journée dans le parc de la propriété de Claudel à Brangues, en Isère. J'avais confié à Jean-Pierre Granval l'adaptation et la mise en scène de cette journée.
Cela dit, c'est encore une preuve, j'allais dire, de votre générosité, qui est assez extraordinaire. Tout d'un coup, vous renonciez à votre enfant chéri, qui était Claudel, pour le confier,
à mon enfant chéri.
Destiné à votre autre enfant chéri. Oui, votre père chéri à votre enfant chéri.
C'est ça. Mais bien entendu, je trouvais qu'il faut entretenir les chaînons de la même chaîne, n'est-ce pas ? Sans ça, on est isolé, on est seul.
Quel effet ça vous fait, parce que vous étiez quand même dans cette pièce, vous étiez le vieux Rodrigue.
Oui.
Et quel effet ça vous fait, d'une façon générale, je ne parle pas seulement dans ce cas-là, d'être mis en scène par d'autres ? Vous aimez ça ?
Oh oui, Oh oui, 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 puis je m'entends bien, puis Jean-Pierre a confiance en moi, et puis on travaille ensemble.
Oui, mais enfin, vous avez été plus souvent de l'autre côté de la barricade, enfin, ça doit vous faire
bien
un drôle
sûr.
D'effet quand même.
Oui, mais c'est une excellente discipline d'obéir, et puis de voir ce qu'on peut faire. Et quand on joue, on ne se voit pas.
Vous êtes alors... capable d'obéir?
Ah oui, j'adore ça.
Ça, vous nous l'avez dit au début, je me rappelle, mais
oui,
ça
oui.
m'avait un peu surpris, parce que vous êtes quand même quelqu'un d'un esprit très conquérant, hein.
Oui, mais comme je vous l'ai dit, peut-être j'ai un défaut majeur, c'est la peur. J'ai toujours été un peureux.
Ça ne se voit pas.
Bah oui, mais c'est comme ça. C'est comme le renard dans la forêt doit avoir peur. Certainement, je ne le connais, je ne le fréquente pas beaucoup, mais j'aime bien les renards et je crois que les renards doivent avoir peur des prédateurs, des gens qui les poursuivent, etc. Donc, bien entendu, quand ils se rencontrent une poule, il est ravi. N'est-ce pas? Mais ça n'empêche pas qu'il est craintif. Je suis craintif.
Est-ce que le renard serait votre animal totémique?
Je n'en sais rien.
Quel animal totémique choisiriez plutôt?
Ah, c'est assez près du renard, oui. Bon, ça c'est... Donc, nous créons le soulevant des îles Baléares en juillet 72 dans la propriété des Claudel. Et puis, comme ça a du succès, on décide de faire monter ce spectacle à Paris. Il s'agissait donc de trouver un lieu où nous puissions monter ce chapiteau du cirque Fanny et des gens charmants qui nous prêtaient ce chapiteau. Alors, comme même dès 68, j'avais reluqué la gare d'Orsay au moment où nous n'avions plus le Théâtre de France, je retourne à la SNCF. Et cette fois-ci, la SNCF accepte que nous puissions monter notre chapiteau pour 30 jours dans le hall de la gare d'Orsay. Nous le montons avec un système d'improvisation, de communication avec le public, de débats qui suivaient la représentation. On met une cinquantaine de coussins pour s'asseoir par terre, etc. C'était encore sous le signe un petit peu du style Rabelais, n'est-ce pas? Et pendant, comme ce spectacle des Baléares a eu du succès également dans le hall de la gare d'Orsay, cela m'a permis pendant 3 mois, car nous sommes restés 3 mois, de humer un peu la gare d'Orsay.
Qui était complètement abandonnée,
ah oui,
désaffectée.
J'ai trouvé de la monnaie nazie, parce que c'est un endroit historique, la gare d'Orsay, l'endroit de déportation. C'est un vieux grognard, la gare d'Orsay. On ferait une histoire de la gare d'Orsay assez intéressante. Et la SNCF, alors cette fois-ci, accepte que je leur loue à l'autre bout de la gare d'Orsay, côté caisse des dépôts et compensations. Là.
Et consignation. Et
oui. Consignation. C'est gentil comme lapsus. 2500 mètres carrés. Et alors je voulais monter un double chapiteau qui assure le silence. Mais la sécurité...
C'est-à-dire, vous voulez dire une tente doublée avec un matelas d'air.
Avec un matelas d'air pour avoir du silence. Et alors, la sécurité l'interdit, car un chapiteau doit être soumis aux intempéries. Alors nous avons imaginé qu'on inventerait des douches artificielles, n'est-ce pas? Et puis finalement, on a été amené peu à peu à faire un théâtre solide. Et c'est à ce moment-là que toute notre expérience de 30 ans a remonté à la surface et j'ai voulu faire un théâtre, construire un théâtre qui... résulte de toutes les observations que nous avions eu l'occasion de faire au cours de nos tournées en jouant partout, dans des théâtres antiques, dans des théâtres à l'italienne, des théâtres à l'allemande, etc. Si bien que la construction du théâtre d'Orsay a été la synthèse de nos observations. D'abord, le rond du chapiteau, parce que le rond est bon pour l'acoustique. Ensuite, le bois. Le lamellé-collé, le lamellé-collé, sont des lamelles de sapin, de Suède en général, qui sont par tranche de 2 cm et qui sont collées avec une colle anti-feu, coupe-feu. Si bien que on lui donne la forme qu'on veut, le lamellé-collé est au bois ce que le ciment a été à la pierre, si vous voulez. On peut donner la forme qu'on veut avec des jetés de 30 mètres, si on veut. Alors, nous avons utilisé ce bois, ce matériau qui est noble. Nous avons utilisé des parois qui sont bonnes pour l'acoustique. La paroi que nous avons adoptée, c'est l'héraclite. C'est un joli nom. Hein. Et même que les panneaux sur la, au-dessus de la charpente s'appelaient du lin. C'était avec du lin. Alors, il y avait héraclite, du lin.
Mais comment vous avez appris tout ça? C'est au contact des techniciens?
Oui, c'est au contact des techniciens.
On vous a fait des propositions, enfin, je veux dire.
Oui, et puis j'ai fait le plan. J'ai fait le plan avec des camarades scénographes, etc. Et mes études de mathématiques sont montées également à la surface. Par exemple, nous avons beaucoup discuté sur la résistance au sol, pour le mètre carré, etc. Alors, ça a déterminé le calcul du cubage de la charpente. J'ai passé mon temps à travailler avec les ingénieurs, avec les scénographes et avec les spécialistes de bois, etc. Si bien que ça m'a beaucoup intéressé. Et j'avais remarqué que le halo magnétique d'un acteur ou d'un être humain ne dépasse pas 25 mètres. Et que si on regarde un être humain au-delà d'une trentaine de mètres, on voit une image, mais on n'est pas dans le halo magnétique. Or, ce qui est important au théâtre, c'est non seulement ce qu'on entend, non seulement ce qu'on voit, mais surtout ce qu'on reçoit. C'est-à-dire qu'on doit pénétrer dans la pile magnétique du public et la pile magnétique du public doit pénétrer dans la pile magnétique de la troupe. À tel titre que le dernier fauteuil du théâtre d'Orsay est à 18 mètres de la scène, si bien que le dernier rang est dans le halo magnétique de ce qui se présente. C'est une des raisons occultes pour lesquelles la communication au théâtre d'Orsay était si facile. On disait, comment ça se fait? On est en pleine communication immédiatement. Ben oui, vous entrez de chez nous et on entre chez vous. On est en vous et vous êtes en nous. Et je crois que c'est une chose extrêmement importante pour ce qui concerne le théâtre, c'est de cultiver la présence. C'est ça la présence d'un acteur. Un acteur a une forte présence s'il a une émission magnétique considérable. On peut être laid, on peut avoir une mauvaise voix et avoir une présence extraordinaire. Alors, nous avons construit ce théâtre d'Orsay selon ces données-là. J'en oublie, mais enfin, ça donne une idée de l'esprit qui nous guidait. Et puis, nous avons aussi arpenté le lieu de location pour que nos pieds épousent les pieds des spectateurs, de telle sorte que les spectateurs, en entrant, se sentaient chez eux, mais chez eux, transformés en greniers de comédiens. Et comme j'avais pu récupérer tout le matériel qu'on m'avait confisqué, nous avons décoré le théâtre d'Orsay avec nos vieux décors, avec nos vieilles toiles. Alors, bien entendu, vous entrez dans
signé de signatures célèbres, d'ailleurs.
Max Ernst, André Masson, Brianchon, etc., Pierre Delbé, enfin, une très belle toile, n'est-ce pas? Et alors, nous avons également créé un foyer de rencontre. Il n'y a pas d'entrée d'artiste et pas d'entrée d'administration. Tout le monde entrait au même endroit, et c'est ce que je voudrais encore avoir.
Car, est-ce que c'est pas un peu tout ça la leçon de mai 68?
Mais c'est la leçon de tout ce que nous avons rencontré dans notre vie, mais absolument, absolument.
Ce mai 68 dont vous avez été victime et qui finalement vous a servi d'une certaine façon.
Mais absolument, je vous dis, reconvertir le destin en providence, c'est toujours une vieille loi. Et c'est ainsi que, ayant construit ce théâtre d'Orsay selon ces données, il nous a fallu 3 semaines pour faire revenir tout notre public, alors qu'il avait fallu 3 ans à l'Odéon. C'est que tout le monde a été surpris d'être chez soi et de côtoyer les acteurs. On se parlait, ça ne dégénérait pas en meeting politique ou en débat intellectuel, non, c'était une rencontre d'amitié. Et c'est une maison d'amitié. Et immédiatement, le public est venu. Alors, ça nous a permis de faire des créations très, très intéressantes.
Oui. Cela dit, vous racontez tout ça. Enfin, c'est très bien. Mais je veux dire que c'est quand même, ça paraît très extravagant au départ d'avoir osé faire cette chose. Oui. Et en plus, d'abord,
toujours
sans argent. On se demande où vous avez trouvé l'argent.
Je me le demande aussi.
Non, mais ça prouve quand même que l'on vous fait crédit, que l'on vous croit, que l'on...
Oui.
On a confiance
d'abord,
en vous.
D'abord, nous avons eu...
Parce que vous n'avez pas eu de subvention, souligne. Aucune aide.
On a eu du FIC, un petit don pour acheter du matériel, je crois. C'était 19 millions de centimes, quelque chose comme ça. Et puis, nous avons créé un comité d'honneur et qui nous a aidés aussi. Il y a eu une petite chose. Puis nous avons vidé nos tiroirs. Et puis, on a eu la chance d'avoir du succès.
Oui, ça c'est après. Mais alors je voulais te dire à propos de la création de ce théâtre...
Justement, mais la chance d'avoir du succès, c'est après. Mais j'ai fait des emprunts.
Oui, bien sûr.
Et c'est grâce au succès ultérieures que nous avons pu rembourser.
Mais alors, par exemple, alors il y a aussi cette question tout de même qui me paraît grave, c'est que vous vous installiez dans un lieu qui, une fois de plus, n'était pas à vous. Et vous, je me rappelle que, je crois que vous m'aviez dit à l'époque, vous payez un loyer très élevé, d'ailleurs, à la SNCF.
Oui, nous étions indexés au tarif des colis de marchandises. Au fur et à mesure que le tarif des colis de marchandises à la SNCF augmentait, ben notre loyer augmentait d'autant.
Et puis alors, il y avait une autre chose beaucoup plus grave, dont vous avez été à nouveau victime, c'est que l'on savait déjà qu'un jour ou l'autre, vous seriez renvoyé, puisqu'on devait, il y avait déjà le projet du musée du 19e siècle.
Oui, mais j'avais reçu une espèce de garantie tacite que ça ne commencerait pas avant 83-85. Et je me disais, en 83-85, ma foi, ça serait peut-être le moment de devenir sage.
Et l'échéance est venue plus tôt.
Oui.
Donc ça a été une surprise. Ça.
C'est une mauvaise surprise. Mais comme c'était déjà la 8e fois que nous changions de lieu ring pour Paris, nous avons eu soin de faire le théâtre d'Orsay démontable.
Oui. Alors, là, l'expérience vous avait servi là aussi. Là.
Et nous allons pouvoir le démonter pour
leur
intérieur.
Ces gens qui l'ont construit, je crois que c'était tout de même une société un peu particulière, non ?
Ce théâtre a été fait par l'amitié.
Oui.
Et les AOR, n'est-ce pas, c'est-à-dire les artisans et ouvriers
réunis. Oui, mais ça qui c'est justement ?
C'est une coopérative ouvrière, n'est-ce pas, qui travaille avec nous tout le temps. Et alors...
Comment tout le temps vous voulez dire
Parce qu'ils construisent nos décors, etc.
Depuis longtemps.
Depuis longtemps. C'est une vieille entreprise de décoration théâtrale qui est devenue
une espèce de chose une coopérative ouvrière.
Ce sont des gens absolument charmants. Et alors, ils ont travaillé amicalement avec nous, c'est-à-dire qu'ils ont signé des traites avec nous, etc. Ça a été vraiment merveilleux. Et comme nous n'étions pas aidés, nous étions marginaux, on a pu travailler très vite. Et on a mis 3 mois et demi pour construire ce théâtre. Et ce théâtre, je vous dis, est parti en flèche. Et cela nous a permis de monter des spectacles extravagants, comme par exemple Zarathoustra.
Nous allons y venir.
Monter Zarathoustra, c'est encore une folie. Et qui rencontre un pourcentage de fréquentation de 104% de la salle.
Il y a quelque chose de beaucoup plus étonnant, enfin, si on peut dire. Ça a été le succès alors d'une pièce mascotte, qui a été la pièce mascotte du Théâtre d'Orsay, qui était Harold et Maude.
Oui.
Et qui est une pièce qui d'ailleurs n'a pas été créée là tout de suite. Vous l'avez créée à Bordeaux d'abord.
Un festival de Bordeaux qui était octobre 72, tout de suite après les Baléares, n'est-ce pas ?
Oui.
Parce que nous avions pris le Récamier comme refuge. Parce que je m'étais dit, si on reste sans lieu pendant un certain temps, tout va se dissoudre. Alors, après mai 68, j'ai immédiatement pris un lieu. Et j'avais demandé à la Ligue laïque de l'enseignement, qui avait le Récamier, mais qui ne voulait plus, qui avait fermé son théâtre, s'il ne pourrait pas m'accueillir.
Autant que l'Élysée-Montmartre, par exemple, vous aviez aussi le Récamier.
C'est ça. Et nous avons répété là, mais comme un lieu de répétition, comme on prend un atelier de peintre.
Oui, mais vous y avez joué des spectacles aussi.
Ça n'est qu'après.
Après, oui.
C'est au moment où Beckett a eu son prix Nobel que j'ai été revoir la Ligue laïque de l'enseignement et je leur ai dit pourquoi est-ce qu'on ne nous rouvre pas le Récamier pour faire un festival Beckett. Et ils m'ont répondu, écoutez, finalement, après tout, rouvrez-le si vous payez tout. C'est tout. Alors, on a ouvert le Récamier pour faire une série de Beckett. À ce moment-là, le Récamier était reparti, ce qui nous a permis de monter la mère de Viskevitch, etc., et puis les hautes surveillances de Genève, un tas de choses comme ça. Et c'est après avoir créé Harold et Maude en octobre à Bordeaux que nous avons transporté Harold et Maude au Récamier. Et c'est du Récamier qu'Harold et Maude est passé au Théâtre d'Orsay. Et cette pièce que nous voulions jouer à l'occasion d'un festival, eh bien Madeleine l'a jouée 7 ans de suite.
7 ans de suite. Et ça, c'est un phénomène très extraordinaire, évidemment, qui est dû en majeure partie, je crois, au prestige de Madeleine et au talent de Madeleine, dont nous n'avons pas tellement parlé au cours de ces émissions. Il s'agissait de votre carrière, Jean-Louis Barrault, mais je dois dire que...
est tout à fait commune,
et que l'apport de Madeleine a été tout de même très très considérable, et en particulier, bien entendu, comme interprète. et que je crois que c'est à elle qu'est dû, parce que cette pièce est finalement au départ assez mince, et puis il y avait un handicap, c'est qu'il y avait quand même eu un film qui avait eu un certain succès, qu'on pouvait penser que, bon, la connaissance d'Harold des Maudes était épuisée.
Et puis Madeleine ne voulait pas justement jouer le rôle à cause du succès du film. Et moi j'ai insisté parce que je croyais que c'était un rôle qui lui collait à la peau, et qui...
Et chaque fois qu'elle l'a repris au cours des dernières années, y compris l'année 1980, ça a été toujours des succès absolument gigantesques.
Elle a joué en dernier lieu à Vienne, en juin dernier, Maud.
Parce que Madeleine a été très très active dans toutes ces périodes, et en particulier au Théâtre d'Orsay.
Il y a non seulement chez Madeleine la qualité, la grâce géniale du talent d'actrice, mais il y a un rayonnement humain exceptionnel. Et je crois que ce rayonnement humain se répand sur l'atmosphère et l'esprit de toute la compagnie et de toute l'histoire de la compagnie. L'histoire de la compagnie, c'est l'histoire de gens qui travaillent, qui changent de lieu, qui ont des soucis, qui ont des succès, qui ont une vie bouleversée, bouleversante, etc. Mais tout cela est survolé par la grâce de Madeleine et son rayonnement.
Et elle a joué, parce qu'alors... Harold des Maudes, on peut considérer que c'était une pièce populaire, une pièce très fine, et le rôle est très beau.
Nous avons fait une recréation des journées entières dans les arbres.
Justement, elle a repris ce qui est un rôle magnifique pour, elle. Et puis un autre Duras également qu'elle a joué aussi.
Eden Cinema,
qui est un rôle terrible, en fait, pathétique et assez horrible même.
N'est-ce pas, Madeleine aura pu réussir dans sa carrière d'actrice 4 ou 5 tournants assez étonnants. Car étant partie des ingénues, elle est passée par les amoureuses, puis les femmes comme celle de la Cerisaie, la Liuba de la Cerisaie. Et puis tout à coup, il y a eu ce tournant des beaux jours, puis ce tournant des journées entières dans les arbres.
Et Harold des Maudes.
Et puis Harold des Maudes, qui est une jeune fille de 80 ans, etc. Il y a une espèce de vertu de vie.
Et comme dans ce Théâtre d'Orsay, vous avez créé une petite salle où il y a eu de très très bonnes représentations également, elle a pu être aussi, alors là, réduite à sa plus simple extrémité, je veux dire, la bouche de Beckett, où elle est simplement une bouche. Ce qui est un exploit aussi très extraordinaire.
Très dur, du point de vue travail de mémoire absolument infernal. C'est une grâce de pouvoir réussir dans des différents emplois au fur et à mesure que la vie passe, n'est-ce pas?
Vous avez évoqué tout à l'heure ce Zarathoustra, ainsi parlé de Zarathoustra d'après Nietzsche, que vous avez créé. Est-ce que dans votre esprit, c'était un peu la suite, une espèce de... qui correspondait avec un Rabelais, Jarry?
Oui. D'ailleurs, ça va même jusqu'à Zadig, Voltaire.
Bien sûr,
C'est défendre des gens qui n'ont pas une bonne réputation, alors que leur réputation ne me paraît pas juste. La réputation de Nietzsche, athée, plus ou moins nazi, plus ou moins pessimiste, amer, n'est pas Nietzsche. À chaque fois qu'on me parlait de Nietzsche sous cet angle-là et que, par ailleurs, j'ouvrais des livres de Nietzsche, je ne voyais que joie. Joie récupérée sur la souffrance, attention, mais un désir de trouver la joie. Et c'est comme cela que je comprenais pourquoi Claudel avait été séduit par Nietzsche dans sa jeunesse. Et il n'a jamais pu s'en délivrer. Et alors c'est pour cela que tout à coup j'ai pris Zarathoustra pour essayer de présenter un Nietzsche qui m'apparaissait à sa lecture, en toute candeur, et faire une proposition. Et de même que pour la dernière création de Zadig, eh bien, avec Coulonges, nous avons voulu présenter un Voltaire qui n'était pas du tout ce sourire amer, sceptique, philosophe, louche, etc. Mais au contraire, un homme qui avait le sens du divin, mais toujours sur le plan antique, et puis le sens de l'amitié, le sens de la gaieté, l'esprit, l'insolence de la jeunesse. Et c'était un Voltaire qui me plaisait.
Et entre-temps, d'ailleurs, pour ajouter à ça, vous avez aussi adapté Les Nuits de Paris de Rétif de la Bretonne, qui est aussi encore là aussi votre interprétation.
Là aussi, il y a encore chez Rétif de la Bretonne un personnage extrêmement intéressant. Et dans Les Nuits de Paris, quand on finissait Les Nuits de Paris et qu'on s'apercevait que la Révolution finissait par la terreur et par l'avènement d'une nouvelle classe qui allait dominer la société et qui était la classe bourgeoise du 19e siècle, on s'apercevait que tout était à recommencer.
Mmh. Donc le théâtre d'Orsay, vous l'avez dit tout à l'heure, a été un lieu extraordinairement accueillant et le public l'a compris merveilleusement bien. Et à un moment donné, vous avez dû en partir, mais vous avez terminé sur un feu d'artifice. Nous avons beaucoup parlé de Claudel et du soulier de satin au cours de ces entretiens. Et vous avez voulu reprendre, sans doute pas la dernière fois, mais l'intégralité du soulier de satin. Oui. Et vous avez réussi ce prodige, et ce n'est pas le premier que vous réalisiez, de pouvoir retenir le public parisien pendant 7 heures de suite avec un entracte en fin de
avec
mois.
Avec une heure d'entracte transformée en pique-nique
et
général.
Et qui a été un succès absolument inouï, et qui est d'une certaine façon une espèce de couronnement de votre carrière. Enfin, qui a été... C'est des présentations
en tout cas, le couronnement de mes rapports secrets avec mon maître Claudel. Oui, oui. Parce que je suis sûr qu'il aurait bien aimé cette espèce de fête désordonnée que l'on donnait.
Absolument.
Qu'on donne avec le soulier de satin. D'ailleurs, le soulier de satin a été estimé comme le meilleur spectacle de la saison précédente.
C'était justifié.
La saison dernière. Et c'est pour cela que nous allons garder le soulier de satin encore un peu au répertoire du futur théâtre que nous sommes en train de terminer de construire.
Et alors, nous avons évoqué au début de ce dernier entretien. Justement, la tristesse que vous avez pu avoir à nouveau d'être renvoyé de ce théâtre d'Orsay, oui. Alors que vous aviez prévu d'y rester plus longtemps. Alors vous voilà de nouveau parti
oui,
sur les routes.
Et cette fois-ci, ça a été extrêmement dur. Parce que
plus dur que les
ça
autres fois,
été
vous
très
dites.
Dur, très, oui. Beaucoup plus dur. Parce que nous étions chez nous cette fois-ci. Et dans un théâtre que nous avions construit. Jusqu'alors, nous étions chez les autres. Là, nous étions chez nous. Tout ce que nous avions fait, c'est nous qui l'avions construit. Le moindre mètre carré nous parlait. Et voilà qu'il faut absolument que c'est condamné à la destruction. Et nous sommes condamnés à 10 mois au moins d'inactivité dans une compagnie régulière et qui fait vivre 100 personnes par an, qui a un budget qui dépasse le milliard de centimes. Et il faut trouver des choses pour assurer la survie de la compagnie, sinon c'est la dislocation complète et légitime. Alors, nous sommes en transit, nous sommes comme des drogués qui sont en manque. Nous ne pouvons plus avoir d'activité. Bien entendu, nous nous sommes arrangés avec la télévision qui était très gentille, qui nous avait fait de la télévision, notamment.
Enfin, gentille, je veux dire, c'était tout à fait naturel.
Et puis Zadig. Mais nous sommes partis en tournée, encore une fois, en Pologne, en Californie, au Mexique et en Autriche. Et nous allons peut-être encore repartir. Mais tout ça finit par être assez épuisant, moralement. Parce que, après tout, on se dit tout à coup, mais qu'est-ce qu'on a fait pour être puni tout le temps? On a jamais rien fait que de servir son pays et sa ville. Alors j'espère qu'une fois de plus, nous allons, malgré cette dure épreuve, qui est la plus dure que nous aurons connue, eh bien malgré cela, nous allons peut-être réussir une fois de plus à transformer cet énorme coup du destin en un bon coup de providence.
Mais néanmoins, quand même, là, vous êtes un petit peu aidé, puisque c'est le ministère de la Culture qui prend à sa charge quand même la reconstruction du palais de glace où vous allez vous installer.
Oui. Mais nous fournissons le théâtre. Nous fournissons, et c'est reconnu par le contrat, la dot que nous apportons est estimée à 5 millions lourds. Et au bout de 8 ans, elle sera propriété de l'État. Donc c'est un échange de bons procédés. Mais ce n'est pas notre fait. C'est le fait de l'État et de la décision de faire un musée du 19e siècle. Nous obéissons, nous rencontrons des gens corrects, et qui ne nous ignorent pas. Mais enfin, ils sont bien gentils, quoi.
Cela dit, ce palais des glaces, c'est tout de même un beau lieu, là, bien choisi.
C'est un endroit auquel j'avais pensé dès 1951, quand nous étions encore à Marigny, et j'avais déposé à la ville de Paris, car c'est un lieu qui appartient à la ville de Paris, un projet pour transformer ce lieu en un théâtre mobile. Ça aurait été le premier théâtre mobile de Paris. Et là, j'espère que nous allons pouvoir transformer ce lieu pour en faire une maison internationale du théâtre, c'est-à-dire un lieu noble où sera entretenue la flamme de l'art dramatique sur le plan planétaire. Toutes les personnalités théâtrales du monde entier y auront leur adresse et seront chez eux quand ils viendront à Paris. Il y aura là un lieu noble qui manque à Paris. Si bien que, quand Madeleine et moi nous nous retirerons gentiment et sur la pointe des pieds, eh bien ce lieu restera encore vivant.
Et que trouvera-t-on dans ce Palais des Glaces ?
On retrouvera, j'espère, la même atmosphère qui
est par exemple, non mais matériellement, je veux dire, deux salles.
La grande salle, ce sera la même, une petite salle, ce foyer de rencontre avec les spectateurs et dont les ouvertures se donneront sur les arbres des Champs-Élysées, etc. J'espère que ce sera un lieu tout à fait sympathique et où les gens auront envie de venir, n'est-ce pas ? Mais nous avons calculé avec Madeleine que depuis la création de notre compagnie au Théâtre Marigny jusqu'au futur Théâtre du Rond-Point, c'est-à-dire en traversant les Champs-Élysées, nous aurons fait plus de 700 000 kilomètres.
Entretien avec Jean-Louis Barrault. Aujourd'hui, le Théâtre d'Orsay. Par Guy Dumur. Assisté de Jeannine Antoine.
C'était les 9e et 10e volets des entretiens de Jean-Louis Barrault par Guy Dumur, diffusés pour la première fois sur France Culture les 26 et 27 février 1981. Vous pouvez les réécouter ou les télécharger sur le site franceculture.fr à la page des nuits.
Life is like a song to sing with measured beats and phrases, with bended notes and some repeats. Music through the ages that brings the highs, the lows, the swells. Sometimes it's for an ending, bringing other songs to sing, ascending, descending. I'm learning how to listen, how to hear a melody, how to hear the song I'm singing, how to feel let it be, and listen for the sound, knowing how it goes, and listen to the melody that flows. Music is a lover with shiny gold wings that whispers in the lover's ear and dances when it sings and sends a variation on an everlasting theme. It's either love or sorrow on the scene. Learn how to listen for the songs I name and sign and claim as a possession and say that they are mine. 'Cause everybody knows that songs come from out of the blue, and I'm learning how to hear the changes too.
out a field and let it be, and listen for the song, knowing how it goes, and listen for the melody that flows, and listen for the melody that flows.